n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne.
Déjà ?
Quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, le magazine où l'on parle de cinéma à travers des actus, des archives et des pépites que nous préparons pour vous. Toujours déterminée et heureuse de vous retrouver dans ce studio, je suis avec Véronique, bonjour Véronique.
Bien le bonjour.
Et avec Margot, bonjour Margot.
Bonjour Anne-Li, bonjour Véronique, bonjour à toutes et tous.
Alors un mercredi sur deux à 19h, on partage ces 40 minutes pour vous inviter dans notre passion commune, le cinéma. Les archives et les références citées sont sur le site de Radio G à la page de l'émission.
Ensemble, nous parlerons ce soir de cinéma avec notre invité, nous partagerons nos coups de cœur parmi les nombreuses sorties de la semaine et nous vous proposerons l'agenda des événements ciné dans notre région.
Au menu de ce soir, donc, on parle de l'adaptation cinématographique d'un célèbre roman de la littérature française. Quelques indices, Margot ?
Alors, deux prénoms pour commencer, Eugénie et Honoré. Et puis deux lieux pour poursuivre, Saumur et Paris. Et enfin, deux thématiques toujours d'actualité, le patriarcat et l'émancipation féminine.
Bon, vous avez trouvé, rendez-vous en fin d'émission pour vérifier. Véronique nous présentera dans son agenda culturel le festival Reflets des cinémas africains qui aura lieu du 1er au 10 octobre en Mayenne.
Et dans quelques minutes, nous serons avec Inès Ndaoui qui s'occupe des partenariats pour le distributeur KMBO. Elle nous parlera du documentaire réalisé par Nathan Grossman, I am Greta. Greta, c'est bien sûr Greta Thunberg. Alors, si vous êtes alarmé par le dérèglement climatique ou bien un peu blasé, si le dernier rapport du GIEC est votre livre de chevet, ou si vous en êtes encore à apprendre quels déchets mettre dans la poubelle jaune, si vous avez déjà manifesté pour le climat, ou si vous vous demandez ce que vous pouvez faire à votre niveau, ce portrait de la célèbre militante écologiste suédoise vous intéressera sûrement. Mais pour commencer, voici la célèbre séquence sonore concoctée par Andy.
Alors célèbre, je ne sais pas, mais j'en rappelle le principe. Après avoir vu un film, j'en pioche des extraits. Je mets tout dans mon shaker, vous écoutez, vous devinez la source, ou bien vous vous faites votre propre film. C'est vous qui voyez, on en parlera ensuite en fin d'émission.
Avez-vous demandé à monsieur ce qui le motive à venir travailler aux grandes galeries ?
Ce qui me motive, c'est le prix de mon loyer.
L'entreprise, qu'est-ce que ça éveille en vous ?
C'est surtout que ça va me réveiller à 7h tous les matins, mais bon...
On n'a rien sans rien. C'est ça, l'entreprise.
En ayant à l'esprit que la coordination n'est pas l'affaire de tous, mais l'affaire de chacun, c'est que vous n'êtes pas dans les grandes galeries. Vous êtes les grandes galeries.
Ayez confiance dans vos camarades, hein. Bien raide.
Voilà.
Doucement.
Voilà, on l'accompagne. Allez.
Vous travaillez dans un grand magasin. Qu'est-ce qu'on trouve dans un grand magasin ?
J'ai pas d'heures sup, moi. Je suis pas aux ACD, j'ai pas d'heures sup, je suis étudiant.
Non, par exemple, pour le Père Noël, qu'est-ce que t'as fait ? Combien ils t'ont payé ?
Mais attends, je suis pas payé plus. Moi, je suis stagiaire, je fais ce qu'on me dit de faire, que ce soit Père Noël, magicien, vendeur de mixeurs, je
peux attends. T'as fait le Père Noël et t'as pas été payé.
Aujourd'hui, dans l'entreprise, les gens ne savent plus pourquoi ils se battent. Et d'ailleurs, très bonne question, pourquoi se battent-ils ?
Pour ne pas perdre leur emploi ?
Exactement. Les gens travaillent pour ne pas perdre leur travail. Ça, c'est très important.
Moi, je suis moi.
Et toi, t'es toi.
Attends, je vais t'expliquer tranquillement. Je suis étudiant, je fais un DESS marketing et communication. Je suis là en stage en entreprise, donc je fais ce que j'ai à faire.
Oh, c'est t'excites pas, deux secondes, t'excites pas. Pourquoi tu fais un travail sans être rémunéré ?
Moi.
C'est vrai, tu fais le Père Noël gratuitement ?
Mais je suis payé !
Avez-vous reconnu le film ?
La voix d'un des acteurs, peut-être ? Bon, eh bien, il va falloir patienter pour le savoir. Rendez-vous en fin d'émission dans une vingtaine de minutes pour dissiper le mystère.
Et pour commencer, nous avons choisi de mettre en lumière le passionnant film documentaire « I am Greta », réalisé par Nathan Grossman, qui sort aujourd'hui sur grand écran partout en France. Vous pouvez le découvrir tous les jours au cinéma Les 400 Coups à Angers, avec notamment demain à 20h, une projection spéciale en présence du collectif Youth for Climate Angers. Alors pour en parler et détailler quelques opérations intéressantes mises en place autour de la sortie, j'ai rencontré il y a quelques jours Inès Ndaoui, la responsable des partenariats pour le distributeur du film en salle KMBO. Nous étions toutes les deux installées au calme, dans un bureau de leurs locaux à Paris, et à côté de nous, c'était la ruche pour préparer la sortie. Alors vous verrez, cela s'entend un peu. Ce sera l'occasion de transporter vos oreilles dans un espace sonore un peu différent de celui de notre studio. On écoute tout d'abord un court extrait de la bande-annonce du film, puis l'entretien.
I don't care about being popular. I care about climate justice.
You have to go to school.
When I get interested in a subject, I become laser focused.
There's a real movement that's growing.
Greta comes up on stage, she speaks, and her words are devastating.
My name is Greta Thunberg, and I want you to panic.
Bonjour Inès.
Bonjour Margot.
Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots le sujet de I am Greta?
Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, I am Greta, c'est un documentaire qui date de 2020, qui est suédois, réalisé par Nathan Grossman. Et en fait, c'est le réalisateur qui a suivi Greta des premiers jours de sa grève scolaire devant le Parlement suédois. Donc, on est fin août 2018, où elle était toute seule avec sa pancarte devant le Parlement, les mouvements de la jeunesse à travers le monde, avec des milliers et milliers de jeunes qui défile dans les rues, donc jusqu'à fin 2019. Donc il l'a suivi un an comme ça, vraiment au plus près. Il a même fait la traversée de l'Atlantique avec elle quand elle s'est rendue à l'ONU à New York. Et donc voilà, c'est un portrait de Greta, mais c'est avant tout un portrait de la jeunesse qui se mobilise pour le climat depuis quelques années.
La séquence d'ouverture, elle est très impressionnante parce qu'en fait, on voit cette petite fille, enfin cette jeune fille rentrer dans l'image. Dans les rues de Stockholm, les bâtiments sont très hauts et elle est toute seule avec sa pancarte en grève pour le climat. Et on a un peu du mal à y croire parce que quand on voit maintenant les foules qu'elle déplace, est-ce que vous pourriez essayer de nous raconter rapidement l'origine de ce projet ?
Oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu surprenant les premières images du film où, comme vous le disiez, elle est vraiment toute seule. Il y a juste quelques passants qui s'arrêtent à peine pour lui dire de retourner à l'école en fait. Ça devient presque des images d'archives en fait, puisque maintenant elle n'en est plus du tout là. Et le réalisateur avait un ami en commun, je crois, avec le père de Greta, qui est, il me semble, dans l'audiovisuel, et il avait entendu parler de cette jeune fille qui commençait sa grève devant le Parlement, parce que c'était au moment d'élection en Suède. Et du coup, c'est comme ça qu'il a eu la chance de la suivre dès les premiers jours, mais il n'avait aucune idée de la tournure que ça allait prendre. Et à la base, je crois même que c'était uniquement un projet de court-métrage où il est dressé le portrait de plusieurs jeunes activistes à travers le monde. Et quand il a vu l'ampleur que ça a pris, il a décidé d'en faire un long avec ce double portrait.
Ce qui est assez riche dans ce film, c'est de voir les images de types très différents en fait, qui sont convoquées pour parler de Greta.
Les images, c'est-à-dire par exemple les images qui ont été prises pendant ses prises de parole, les discours à travers le monde, ou des images plus intimes quand elle est avec sa famille. C'est vrai qu'il y a aussi des images de quand elle était enfant, donc là on est vraiment sur des images familiales. C'est vrai qu'il y a un mélange comme ça qui permet de tout découvrir de Greta. Et ce qui est amusant, c'est que donc parmi les nombreux partenaires qu'on a autour du film, notamment Youth for Climate, qui est la branche française du mouvement Fridays for Future, donc c'est la jeunesse mobilisée pour le climat suite à l'appel de Greta. De nombreux et nombreuses membres de ce mouvement nous ont dit, évidemment, on connaît Greta, mais on ne la connaissait pas comme ça. Et ça nous touche encore plus parce qu'on se reconnaît dans certaines situations, notamment le fait qu'elle a commencé l'activisme suite à une dépression, en fait. donc, qui est lié à tout ce qu'on appelle l'éco-anxiété, de mesurer l'ampleur de la catastrophe et d'être complètement paralysé par ça, et comment on passe justement à l'action.
Donc en fait, il y a des images d'archives, des images familiales, et puis c'est un petit peu aussi un road movie, parce que le réalisateur va suivre Greta et son père, parce qu'on voit beaucoup son père, dans toute leur pérégrination en Europe. Et le film nous propose d'assister à de nombreux discours.
C'est vrai que c'est un des éléments les plus frappants, parce que avant elle, j'ai pas tellement souvenir qu'il y ait eu comme ça une personne aussi jeune qui ait pu s'adresser à autant de dirigeants et de dirigeants mondiaux. Alors après, avec une réception qui est un petit peu toujours la même. Je pense qu'au début, elle n'était pas forcément prise extrêmement au sérieux, mais que ça évolue. Effectivement, on voit aussi l'évolution de ses modes de transport dans le film, parce qu'elle-même, elle en parle. Tout à l'heure, on évoquait les images d'archives de famille, enfin, au caméscope, etc. Et elle explique qu'elle avait un mode de consommation et de transport, etc., très commun, et que c'est venu, en fait, petit à petit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le film finit sur cette fameuse traversée de l'Atlantique.
En bateau, donc
Oui, en voilier même. Enfin, bateau, le voilier est un bateau, mais c'est pour. J'insiste parce que c'est. Effectivement, on voit que c'est pas du tout facile. Enfin, ça reste à l'époque, elle avait 15 ans, je crois, ou elle allait avoir 16 ans. Et ça reste très difficile. Enfin, on parle d'une traversée de l'Atlantique sur un voilier où elle est juste avec son père et puis la personne.
Le skipper.
Et c'est la question, c'est pas de dire. Enfin, le message n'est pas de dire oui, tout le monde peut prendre le voilier pour aller aux États-Unis. C'est que, voilà, elle est prête à aller jusque-là pour ne pas entrer en contradiction avec ses convictions. Et ça se ressent dans son comportement à toutes les échelles qu'elle a remis en question progressivement. Voilà, il y a vraiment une volonté de cohérence, mais aussi c'est important de montrer, de rappeler que c'est quelqu'un de jeune et que, bah oui, il y a des moments très difficiles parce que Greta, c'est aussi la cible de nombreuses attaques, encore aujourd'hui, hein, même nous, dès qu'on publie la bande-annonce, hein, on a des commentaires plus que surprenants. Et y a un passage dans le film intéressant où elle voit un petit peu sur les réseaux des attaques. Quand elle est avec son père, parce qu'on l'accuse beaucoup d'être manipulée par ses parents. Enfin, de toute façon, elle est jeune, c'est une femme. En plus, elle est Asperger, donc elle concentre un petit peu toutes les.
Et le film, d'ailleurs, n'esquive pas cette question-là, sans en faire l'enjeu central.
Exactement. D'ailleurs, il y a une scène qui est, pour moi, très intéressante, mais très courte. C'est un journaliste qui lui dit « Vous souffrez d'Asperger ». Elle dit « Je ne dirais pas que je souffre, je le suis ». Et voilà, on en reste de là et ça suffit, parce que c'est pas un sujet, c'est juste, je l'ai évoqué parce que ça fait partie des vecteurs, enfin des points qui fait qu'on l'attaque d'autant plus, quoi.
Alors vous parliez tout à l'heure de contradiction et de volonté justement, elle, de ne pas entrer en contradiction avec le discours qu'elle porte. En revanche, le film ne se prive pas de montrer les contradictions et d'illustrer les contradictions qu'elle pointe, celles des dirigeants politiques, qui d'un côté vont la recevoir à l'Élysée, au Parlement britannique, avec tous les honneurs, et de l'autre montrent une certaine inaction. Ça, c'est aussi un point intéressant, c'est un petit peu les coulisses de la politique dans lesquelles on pénètre grâce à la caméra de Nathan Grossman, qui vraiment suit Greta, y compris dans des lieux qui sont habituellement fermés au public. Enfin, moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans le film, c'est qu'il y a énormément de séquences où on voit ces dirigeants qui ont envie de faire des selfies ou des photos avec Greta.
Ah ouais.
Pour leur communication, leurs enfants, sans prendre vraiment au sérieux les discours qu'elle martèle. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant dans le film, c'est qu'en fait, on n'a pas les discours, évidemment, in extenso, ce serait trop long, mais on a souvent une sorte de mantra qu'elle répète pour justement, d'une certaine manière, montrer à quel point ça tourne à vide. Elle a beau répéter et répéter que l'urgence est là, finalement, le film montre que tous ces autres dirigeants, à commencer par Trump et Bolsonaro qu'on voit, reste assez sceptique.
Voir l'attaque, encore une fois, mais oui, on est dans un décalage qui est absolument intéressant, c'est-à-dire, on fait le selfie qui va bien, parce qu'en termes de communication, c'est très puissant par rapport à la jeunesse. On pense que la jeunesse n'est pas dupe, quand même. C'est ce que c'est des méthodes, finalement, assez anciennes de communication, de croire qu'une photo va suffire. Et comme vous le disiez, si justement, le montage est vraiment très important, très intéressant, parce qu'on a les mêmes phrases qu'elle martèle, et c'est le mot exact, parce qu'elle fait, c'est volontaire, elle commençait ses discours toujours de la même manière. Je m'appelle Greta Thunberg, j'ai 15 ans, et...
je veux vous faire paniquer.
Voilà, je veux vous faire... I want you to panic. Oui, il y en a plusieurs comme ça, et nous, on propose d'ailleurs l'intégralité de ses discours, et en anglais et en français, en accompagnement du film, justement parce qu'on pense que c'est un bon support de travail en classe. Et effectivement, il y a aussi, on propose d'étudier d'opposer sa rhétorique à elle à la rhétorique des arguments qu'on lui oppose, en fait. Et il y a aussi tout ce champ contre champ des réactions des assemblées devant lesquelles elle se tient, qui n'écoutent pas forcément, qui sont sur leur téléphone ou qui la regardent avec défiance, etc. Alors que les officiels autour d'elle vont faire un petit peu bonne figure, mais il n'y a pas forcément quoi que ce soit derrière, en tout cas à l'époque. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle, par contre, elle ne varie pas. Elle ne se laisse pas démonter par ses actions, ses absences de réaction. Elle a toujours, en fait, la même attitude, le même discours, tout en restant extrêmement courtoise. Mais voilà, elle ne se laisse pas du tout impressionner.
Et en s'appuyant sur des faits scientifiques.
Ah oui, bien sûr. C'est ça qui est très fort, c'est qu'elle utilise des mots très forts, mais elle n'est pas du tout dans l'emphase, en fait. Elle est très factuelle. Et c'est aussi ce qu'elle explique au début du film, c'est qu'elle, en fait, elle s'est renseignée, mais vraiment, en lisant des publications scientifiques, notamment les rapports du GIEC, mais pas uniquement. Elle connaît tous les concepts scientifiques qui sont liés aux mécanismes très complexes du dérèglement climatique. Et ce qui l'inquiète, c'est que la plupart des politiciens et des politiciennes en charge de ces questions ne maîtrisent pas du tout ces sujets-là. Et c'est ça qui sur quoi elle alerte aussi, c'est qu'il faut connaître ces sujets-là, avoir toutes les informations en tête pour réagir en conséquence.
Alors une autre thématique qui, moi, me semble très intéressante dans le film, c'est aussi un petit peu l'opposition entre une façon assez traditionnelle de faire de la politique, on en parlait tout à l'heure, de la communication, et une sorte de nouveau militantisme qu'elle propose, qui est beaucoup plus horizontal, collaboratif, collectif, très jeune, et qui passe notamment par les réseaux sociaux, parce qu'on a vu... Et le film l'illustre de façon très forte, que les réseaux sociaux sont utilisés parfois pour des raisons extrêmement virulentes, mais il y a aussi par tous ces jeunes une utilisation beaucoup plus positive des réseaux sociaux qui va leur servir de mobilisation, de communication, et il y a des très belles séquences là-dessus aussi.
Oui, tout à fait, notamment à la fin, sans divulgâcher, comme on dirait au Québec, il y a des montages intéressants et de voir l'émotion aussi de Greta de découvrir l'ampleur du mouvement à travers le monde. Et je pense que comme toute technologie en soi, il y a forcément des impacts très négatifs, mais il y a aussi des belles choses qui se passent, comme ces jeunes qui ont pu, mais vraiment à travers tous les pays, organiser leur marche.
Inès, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous raconter quel a été votre travail, votre approche autour de ce documentaire « I am Greta » ?
Sur un documentaire comme I Am Greta, en fait, on sollicite de nombreux partenaires avec ma collègue Jeanne Terral, avec qui on va organiser des projections débats, parce qu'on pense que c'est vraiment important d'accompagner ces films sur la durée, de proposer vraiment un moment d'échange entre les spectateurs et les spectatrices et les personnes qui interviennent. Donc on a de nombreux partenaires sur le film, notamment Youth for Climate que j'évoquais tout à l'heure, qui est un mouvement, le mouvement français de la jeunesse pour le climat, qui a des groupes locaux dans de nombreuses villes et qui viennent en fait et parler de leur engagement, de comment ils et elles se sont engagés, comment monter un groupe local ou comment rejoindre un groupe local, quelles actions mener. On leur propose aussi d'intervenir en classe, parce que le mouvement a mis en place un réseau des écoles vertes. On est aussi partenaire avec Notre Affaire à tous, qui est une association spécialisée dans les recours juridiques par rapport aux catastrophes écologiques. Et c'est une des associations qui a porté l'affaire du siècle, notamment. On a de nombreux partenaires, comme On est prêt également, qui fait des nombreuses campagnes environnementales, mais digitales, avec des personnalités. Donc là, on est en plein dedans. Et ça s'adresse aussi beaucoup à des jeunes. Et on a aussi le plaisir, sur ce film, d'être en partenariat avec le Pass Culture. Le Pass Culture permet aux jeunes de 18 ans d'acheter des places de cinéma ou des livres ou des places pour des expositions via une inscription gratuite à une application et de retrouver toutes les séances d'I Am Greta autour de soi par géolocalisation.
Vous avez aussi développé un certain nombre d'outils qu'on peut retrouver sur votre site internet, qui sont ce qu'on appelle des outils pédagogiques à destination et des enseignants et des jeunes.
Absolument. Alors, on a fait un dossier pédagogique qui a été conçu en partenariat avec l'association La Fresque du Climat, qui est habituée à intervenir dans les établissements scolaires ou dans les entreprises. Et on a fait figurer également nos partenaires You for Climate et notre Affaire à tous pour présenter des ateliers qui peuvent se dérouler aussi bien au cinéma, en séance scolaire, qu'en classe avec les enseignants et les enseignantes. Et sinon, on propose aussi une analyse de séquence qui est disponible en DCP, donc c'est pour les salles de cinéma, pour passer l'analyse dans les salles, mais aussi en fichier vidéo pour que les profs puissent s'en emparer. Ils sont très preneurs et très preneuses de ça, parce que ça permet aussi de revenir au côté cinéma du film, parce que certes, le sujet prend énormément de place, et c'est normal, il est central, mais cette analyse de séquence permet de faire le lien entre ce qu'on voit et ce dont on parle. Et ça, pour nous, c'est très important dans une perspective, pardonnez-moi, d'éducation à l'image. On a aussi sorti un podcast qui est consacré au film, qui dure 40 minutes. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Il est produit et réalisé par Narasson. Et en fait, c'est 40 minutes d'entretien avec différentes personnes qui se croisent, notamment Cyril Dion, réalisateur de Demain et de Animal qui sortira au mois de novembre, qui soutient le film et qui a eu la gentillesse de répondre à notre invitation, mais aussi des spécialistes des questions environnementales. Et notamment, on a le témoignage d'une jeune activiste de You for Climate Nantes. Elle parle de son propre engagement. On avait envie de mettre en regard l'engagement d'une personne à peu près du même âge en France par rapport à Greta.
Et c'est vrai que ce podcast est un prolongement passionnant au documentaire de Nathan Grossman. Merci beaucoup Inès Ndaoui. Je rappelle que vous êtes en charge des partenariats pour les sorties de films chez KMBO, le distributeur de I Am Greta. Et justement, tous les éléments produits pour accompagner cette sortie sont consultables, visionnables et écoutables librement sur le site de KMBO. Nous mettrons bien sûr un lien sur la page de notre émission. Quant au documentaire I Am Greta, on peut le voir en salle dès aujourd'hui et nous vous le recommandons chaudement. Il passe au cinéma Les 400 coups à Angers avec notamment demain soir à 20h une projection en présence du collectif Youth for Climate Angers.
Vous êtes toujours à l'écoute de Caméra Subjective, le magazine cinéma de Radio G. Et le choix musical du jour nous vient de la bande originale de J'ai perdu mon corps, un film d'animation de Jérémy Clapin, sorti en 2019. La BO a été composée par Dan Lévy. Thank you. Dans Caméra Subjective, on retrouve maintenant Véronique et son agenda cinéma, le rendez-vous des événements ciné dans la région.
Aujourd'hui, je vous emmène en Mayenne, au festival Reflet des cinémas africains. Certains connaissent bien le festival Cinéma d'Afrique à Angers, qui vient tous les deux ans nous présenter le meilleur des films de ce continent. Eh bien, en Mayenne, c'est différent, puisque chaque année, le festival Reflet met en lumière le cinéma d'un territoire différent. Et l'Afrique est donc mise à l'honneur cette année. Les reflets des cinémas africains auront lieu du 1er au 10 octobre, après avoir été reportés deux fois à cause de la pandémie. Plus de 50 films y sont proposés, dans les 10 cinémas du département de Mayenne, et plus de 25 000 spectateurs y sont attendus. Yannick Lemarié, président d'Atmosphère 53, nous explique pourquoi ils mettent à l'honneur le cinéma africain.
C'est parce qu'après avoir été longuement négligé, les films africains sont à nouveau accueillis par les grands festivals, comme Cannes, Locarno, Berlin, et plébiscités par les spectateurs. On ne compte plus les réalisateurs marocains, burkinabés, soudanais, maliens, etc., auxquels on rend hommage. N'est-il pas temps de montrer largement leur production également en Mayenne ?
Parmi la très riche programmation de cette édition, nous attirons votre attention sur le focus consacré au réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun. La particularité de ce cinéaste est de proposer des fables qui abordent la situation politique compliquée de son pays, le Tchad, tout en ayant une portée universelle. Son film, le dernier, c'est « Lingui, les liens sacrés ». Il était en compétition au Festival de Cannes cette année. On y retrouve ses thématiques fétiches, la relation filiale, la dualité, la vengeance, le pardon, mais sous un jour féminin cette fois-ci. Lingui sera présenté en avant-première lors de la soirée de clôture des Reflets, le 10 octobre au Vox de Mayenne. Notez également qu'il sort en salle le 10 novembre. Du même réalisateur, nous aimons aussi beaucoup Darat Saison Sèche, son second film réalisé en 2006. Il est à retrouver le 3 novembre à Laval, le 6 à Bourgneuf-la-Forêt, le 8 à Mayenne et à Évron et le 9 à Renazé. Retrouvez toutes les infos sur le site de leur festival refletducinema.com.
Reflet avec un S.
Changement de décor, changement d'ambiance. Je vous emmène maintenant dans un kiosque à journaux au cœur du très chic 16e arrondissement de Paris.
Ah, je vous filme, Madame Pipiou.
Surtout avec la gueule que j'ai en ce moment.
Vous êtes très bien.
Oh, tu parles, oui.
Pourquoi?
Vous le trouverez sur le site internet, son nom.
Bah, bien sûr. Bah, en plus, surtout si c'est un des cofondateurs d'internet en 70.
Monsieur Pouzin.
Ah, vous êtes Monsieur Pouzin, la star de l'internet.
Le canard.
Eh bien, j'en ai plus du canard, monsieur.
Ah, vous l'avez mangé.
Ah, il n'y en a plus non plus.
Non.
Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Alexandra Pianelli est plasticienne et réalisatrice. Et comme elle a du mal à vivre de son art, elle a pris l'habitude de faire de ses petits boulots des objets de création. Dans son film documentaire « Le kiosque », elle est venue prêter main forte à sa mère, vendeuse de journaux. De la découverte de ce métier à la complicité qui se noue avec une galerie de personnages détonnants, la réalisatrice enregistre le monde comme il va. Comme dans un vieux rêve d'enfant, elle joue à la marchande. Mais la presse papier et les commerces de proximité sont en crise. Et ce petit jeu s'avère plus compliqué que prévu. En bricolant différentes manières d'installer sa petite caméra dans un si petit espace, un téléphone ou une webcam, Alexandra nous livre une histoire quotidienne, pétillante, avec de fidèles clients qui se prennent au jeu du film. Mais le film ne s'arrête pas à cette délicieuse galerie de portraits. Il témoigne également de la précarité d'un kiosque à journaux qui se retrouve au bout de la chaîne économique de la presse papier, un secteur en pleine mutation. Et pour nous expliquer cette situation, elle se met au stop motion et anime sur un plan du quartier des kiosques en carton, des chiffres et des mots-clés économiques sur des panneaux de circulation en papier fixés avec un cure-dent, de petites voitures et camions de livraison de journaux. Eh bien, figurez-vous que j'ai admirablement bien compris cette histoire économique. Alexandra raconte.
Comme il n'y a pas de porte, ce qui se passe dans la rue et le climat social est là tout le temps. On est hypnotisé, on est dans le réel. Avant même que les journaux ne parlent d'une crise sociale, on la vit en direct.
Et de conclure,
on devrait tous travailler dans un kiosque pour être plus ouvert, plus souple. Et j'ai eu envie de montrer cela.
Le kiosque sort en salle le 6 octobre. Et nous vous conseillons de venir le voir le 7 octobre à 20h au cinéma Les 400 Coups à Angers, puisque la projection sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site des 400 Coups.
Merci pour ces conseils, Véronique. Bon, vous n'avez pas oublié l'énigmatique séquence sonore de tout à l'heure. Il est temps d'en savoir plus sur le film. Ali, à toi de jouer.
Alors pour cette séquence sonore, c'est le film qui m'a choisi. Au détour des newsletters de cinéma, j'ai ainsi découvert le premier long-métrage de Cédric Clapiche, Rien du tout. Un film qu'il a réalisé et dont il a écrit le scénario. Sorti en 1992, ce film nous emmène au cœur des Grandes Galeries, un magasin parisien, bientôt centenaire, où l'on trouve de tout. Et qui vous le rappellera certainement, les enseignes des grands boulevards. Ce grand magasin est au bord de la faillite, et c'est la raison pour laquelle un nouveau directeur, Monsieur Le Petit, joué par Fabrice Lucchini, est nommé. Il prend la mission de redressement très à cœur. Nouveau dans cet univers, il le surplombe, et avec son regard neuf de manager, il va vouloir instaurer de nouveaux principes de gestion et de communication pour remobiliser cette grande famille que sont les Grandes Galeries. Rien du tout n'est pas un film social, mais c'est un film choral. On y voit plus d'une dizaine de personnages qui sont tour à tour narrateurs. On trouve donc une pléthore d'acteurs et d'actrices, fort bien dirigés. Et il y a tellement de rôles que personne n'a vraiment le premier. Les personnages sont plus ou moins esquissés, parfois un peu clichés, mais sont toujours écrits et jamais caricaturaux. La vedette du film, c'est donc très certainement son décor, les Grandes Galeries, immense labyrinthe dont on ne sort pas. En croisant les scènes et les dialogues, d'un plan à l'autre, passant d'une scénette à une autre, comme ça se passe dans la vie, on retrouve parfois les petites cruautés du quotidien, ou les luttes, ou les complicités. Et le rythme du film est assez calme, mais on avance malgré tout dans l'intrigue, car il y en a une. On retrouve aussi dans ce film, Rien du tout, un autre Paris, avec beaucoup moins de portes automatiques, d'écrans et d'électronique, et c'est assez fou de voir tout ce qui a pu changer en 30 ans. C'était vraiment un autre monde, les années 90, finalement. Rien du tout, ce sont aussi ces grands discours sur les nouvelles techniques managériales et la direction d'entreprise. L'arrivée du team building, avec un saut à l'élastique et nuit sous la tente pour tout le monde, et des anglicismes portés par les différents process qui s'installent. Ce film est une fable douce, où l'on retrouve toutes les frictions de notre vie contemporaine. Personnellement, j'ai passé un très bon moment. L'image et la mise en scène sont bien. Et j'ai ri, car les dialogues sont bons aussi. Et j'ai enfin compris ce que signifiait film choral. Finalement, est-ce que c'est pas tous les films de Cédric Clapiche ?
Et ceux de Paul Thomas Anderson, qui est l'un des créateurs du genre.
Merci. Alors moi, j'ai aussi vu dans ce film un écho à Golden 80s de Chantal Akerman, qui était sorti en 1986, une comédie musicale qui se déroulait aussi dans le microcosme d'un centre commercial et qu'on a pu revoir à Angers avec les estivales de premier plan. Je vous le recommande, c'était vraiment très bien. Pour revenir au film de cette chronique, Rien du tout, rien est au pluriel, écrit et réalisé par Cédric Clapiche. Le film est sorti en 92 et je l'ai choisi car vous pouvez le voir gratuitement jusqu'à demain à 17h très précisément sur le site www.mk2curiosity.com.
Vous aussi, vous avez des films qui vous ont choisi comme Anne-Li ? Bon, on en reparlera peut-être une autre fois. À toi la parole, Margot.
Merci Véronique. Alors j'ai choisi ce soir, moi, de vous parler d'un film qui sort lui aussi en salle aujourd'hui. Il s'agit de l'adaptation au cinéma d'un grand classique de la littérature française par un des auteurs phares des lettres contemporaines. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer sur grand écran Eugénie Grandet, l'une des héroïnes les plus célèbres d'Honoré de Balzac, à qui le romancier et réalisateur Marc Duguin consacre son nouveau film. Alors je résume l'intrigue pour ceux qui auraient échappé à la lecture de ce classique. Nous sommes à Saumur au début du XIXe siècle. Félix Grandet est un sans-culotte qui a profité de la Révolution française pour amasser une fortune immense. Ignorant tout de cette richesse, sa femme et sa fille Eugénie vivent chichement dans une petite maison sombre et triste. Eugénie est en âge de se marier et, bien sûr, tous les fils de notables la courtisent pour sa dot. Mais Eugénie rêve désespérément au grand amour. Quand un inconnu frappe à la porte, il s'agit de son cousin de Paris, Charles Grandet, orphelin et ruiné. La suite dans ce premier extrait de la bande-annonce du film.
Si vous le souhaitez, cet après-midi, je vous emmènerai voir le pays.
Volontiers. Vous n'avez jamais quitté ces lieux.
Parce que vous croyez qu'on m'y autorise ?
Je vous montrerai Paris un jour.
Enlevez-vous tout cela de la tête.
Et puis tu le connais à peine.
On jase beaucoup en ville sur la façon dont vous traitez votre fille. Est-ce que l'idée d'avoir à payer une dot vous arrache le cœur ?
Pas un liard ne sortira de ma poche pour acheter un mariage à ma fille.
Pas commode, le père Grandet. Alors Margot, pourquoi nous conseilles-tu d'aller voir ce film ?
Marc Duguin est loin d'être le premier à adapter le roman de Balzac. Mais ce qui est intéressant dans son film, c'est d'abord le soin qu'il apporte à la description quasi naturaliste et délicieusement féroce de cette communauté de notables de province, entre petits arrangements entre amis et méfiance envers la capitale. L'intrigue se passe en Anjou, et à travers le personnage de Félix Grandet, tonnelier puis négociant, le film réussit le portrait passionnant d'une région et de sa richesse viticole. Ajoutons que tous les extérieurs ont été tournés dans le coin. On peut par exemple reconnaître la silhouette du château de Montsoreau dans une des premières séquences du film. Marc Duguin explique qu'il n'a pas pu filmer dans les rues mêmes de Saumur car le paysage urbain est trop disparate. Alors il a tourné à Fontevraud et dans la vieille ville du Mans. Notons qu'on ne voit jamais la Loire dans le cadre. Un peu comme si, à travers cet oubli, le film nous disait déjà quelque chose de ce que vivent ces personnages, notamment féminins. L'enfermement, l'isolement et le manque d'horizon.
Justement, quels sont les acteurs et actrices qui incarnent les personnages ?
Alors ça, c'est un autre point fort du film de Marc Duguin. Son casting, 3 étoiles, littéralement. La première, c'est Valérie Bonneton qui insuffle une profonde humanité au personnage de la mère de Jenny, en résistance discrète, mais inflexible, contre son mari. Le père Grandet, justement, c'est Olivier Gourmet, qu'on connaît pour ses rôles dans les films des frères Dardenne. Ce choix de comédien sert vraiment le film car sa silhouette débonnaire ajoute de l'ambiguïté à son personnage. Difficile de mesurer tout de suite son avarice tyrannique tant il nous faut d'abord oublier notre a priori sympathique envers le comédien. Et le monstre n'en a que plus d'intérêt. Et comme vous le savez, pour Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Mais la révélation du film, c'est la comédienne Joséphine Japy, Eugénie Grandet dans le film, dont le visage diaphane est magnifiquement mis en lumière. Voici ce qu'elle explique à propos de son travail.
Le challenge par rapport à Eugénie, c'était de comprendre ce que c'était d'être une jeune femme il y a 150 ans, coincée entre la Bible et son canevas.
La grande réussite du film, c'est vraiment de créer, presque physiquement pour nos spectateurs, cette impression du temps qui passe infiniment lentement, comme une lente asphyxie. On le saisit notamment dans le jeu de Joséphine Japy, tout en silence, en intensité de regard et en posture statique. La comédienne ajoute sur son personnage.
La seule fenêtre qu'elle a, ce n'est pas celle devant laquelle elle brode, mais c'est son imagination et ce qu'elle se raconte comme histoire.
Inutile d'ajouter qu'au XIXe siècle, l'imaginaire d'une jeune femme fait peur.
Il est de bon ton de ne rien attendre pour une femme, si ce n'est la volonté des hommes, de tous les hommes.
Tu ne veux pas d'un mari non plus. Aucune société n'acceptera de fréquenter une femme seule.
Croyez-vous que j'en ai besoin de cette société ?
Mais qu'est-ce que vous allez faire ?
Eugénie Grandet, c'est l'histoire d'une prise de pouvoir par la religion, par l'argent, par tous les moyens. Le père Grandet est la personnification du patriarcat comme mode de domination masculine qui s'épanouit au début du capitalisme.
Voilà ce que dit Marc Duguin à propos de son film. Et l'on comprend pourquoi le romancier et réalisateur, qui a fait de la question du pouvoir et de son dévoiement le centre de son œuvre, s'est intéressé à ce roman de Balzac. Tout l'intérêt de son adaptation est de mettre en lumière le caractère très contemporain des problématiques du livre. La destruction des rapports humains par l'argent, les débuts du capitalisme économique, avec un personnage qui évoque certains entrepreneurs actuels, le rapport père-fille qui renvoie à une forme de patriarcat tyrannique et la condition de la femme. Arrêtons-nous pour conclure sur ce dernier point, au cœur du film de Duguin, qui décortique avec habileté les ressorts de la domination masculine. À la différence de la narration omnisciente du roman de Balzac, l'adaptation fait le choix judicieux d'alterner entre le point de vue du père et celui de sa fille pour nous donner à ressentir le rapport de force. Et cela se traduit notamment dans les décors. Si Félix Grandet est souvent filmé dans les salles de vente animées ou sur ses terres devant un horizon dégagé, sa fille, petit à petit, n'apparaît plus que dans des séquences en intérieur, cloîtrées et solitaires. La mise en scène tout en clair-obscur fait de ce décor la traduction du repli intérieur contraint d'Eugénie. Pourtant, là où le roman de Balzac était celui de la résignation d'Eugénie, le film de Marc Duguin, qui a légèrement modifié la fin, se veut l'émancipation de ce personnage. Cette fin libératrice donne toute sa force au film et ne le rend que plus contemporain.
Eugénie Grandet, de Marc Duguin, sort en salle aujourd'hui. Vous pouvez le découvrir dans différents cinémas du département, à Angers, Saumur, Baugé, Beaufort, Candé, Chemillé et Saint-Léger.
Et Caméra Subjective, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, encouragements ou critiques via la page de l'émission sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. On sera ravis de vous lire ou même de vous entendre puisqu'il y a une option message vocal. Vous retrouverez à cette même page tous les podcasts de l'émission ainsi que les références citées. Merci Margot, merci Véronique pour ce moment. Oui, vos micros sont loin. On se retrouve dans 15 jours, le mercredi 13 octobre. La semaine prochaine, le mercredi à 19h, c'est Bande Geek Mafia. Et restez à l'écoute de Radio G, car dans une vingtaine de minutes, c'est Redis Back. A bientôt et bon film.
Bonne soirée.